Nous sommes le lundi 28 août 2023, il est 20h comme tous les lundis soirs, c'est le retour de On Joue, la prolongation. On fait un coucou particulier à Samuel Cujas qui doit évidemment nous écouter, et en ce lundi 28 août 2023, eh bien on va écouter le lancement. Vous êtes bien dans On Joue, la prolongation sur le 90.2 FM, sur le site radiojudaïca.be, sur l'application Radio Judaïca. On va commencer pour une heure de football belge et international. Et pour parler de football ce soir, on reçoit deux de nos intervenants réguliers. Bonsoir Steve Gris.
Bonsoir Blaise, bonsoir Alex, très heureux d'être présent parmi vous ce soir.
Mais le plaisir est partagé Steve, bonsoir Alex.
Salut Blaise, salut Steve.
On est tous les trois autour de cette table, Alexandre Demeter de Sportimize, je vous ai appelé Alex, mais c'est vrai
non,
que
il faut tout le monde le sait entre temps.
Il faut qu'on fasse des présentations un petit peu plus formelles. Alors cette semaine, on va parler de football belge, évidemment. On va parler de football belge en Coupe d'Europe. Les Belges ont fait 5 victoires sur 5 matchs. C'est très, très, un très, très beau résultat. Et donc, évidemment, on va décortiquer toute cette semaine. Et puis, la semaine qui arrive aussi également, parce que ça va être des matchs très importants. On va évidemment parler aussi de ce week-end de championnat avec Anderlecht qui conserve la première place, la tête du championnat, et le Standard qui s'enfonce dans sa crise. Deux côtés du classement. On ira voir un peu ce qu'il se passe. Je vous propose de commencer, les amis, avec, comme tous les lundis, on va se concentrer sur le Belge de la semaine. On en parlait un petit peu hors antenne. Nos choix ne sont pas forcément pour leur performance sur le terrain.
Vas-y Steve.
Alors moi j'ai hésité entre deux justement en y réfléchissant. Un pour les performances sur le terrain et un pour les promesses pour l'avenir. Je pense à Jérémy Doku qui est on le sait une pépite belge formée à Anderlecht qui après des débuts à Rennes assez hésitants a explosé depuis un an ou deux et qui vient d'être transféré à Manchester City. C'est le premier Belge que Guardiola achète. Évidemment, on est bien d'accord que Kevin De Bruyne joue pour Guardiola, mais il ne l'a pas acheté. Et donc, c'est le premier Belge sur lequel il jette son dévolu. On se rappelle tous de lui, de ses diables déroutants, lorsque la Belgique était au plus mal face à l'Italie, face à la Croatie, et c'était lui qui sortait du lot. C'est un joueur au physique un peu atypique. Petit sur ses appuis, mais qui arrive à dribbler et à avoir une pointe de vitesse assez phénoménale. Il est très jeune, hein. Il a 21-22 ans. C'est une vraie promesse d'avenir. Et le fait qu'il soit acheté par le gagnant de la Ligue des Champions fait que on va voir hein, si il va avoir l'occasion de jouer, mais démontre que il y a beaucoup de gens qui croient en lui. Et c'est un bénéfice pour tous, parce que s'il performe dans la meilleure équipe du monde, ce sera un bénéfice énorme pour les Diables Rouges. Et c'est évidemment tout le mal qu'on nous souhaite. On s'est posé la question de savoir, il va aller à Manchester City, quel va être son temps de jeu. Guardiola a dit, on joue sur tellement de tableaux qu'il est certain qu'il va avoir du temps de jeu. Je lui dis chiche, et on se réjouit de la voir.
Et Manchester a perdu Mahrez, qui occupait la même position. Vous avez parlé de son physique, Steve. c'est peut-être la grosse inconnue. Il faut qu'il soit laissé tranquille par les blessures, Jérémy Doku.
Il faut qu'il soit laissé tranquille par les blessures, c'est compliqué, de par sa musculature un peu spécifique, de par son jeu aussi. Son jeu qui appelle évidemment avec beaucoup d'explosivité, avec beaucoup de décrochage et de crochets, implique qu'il peut se faire mal à des endroits où il est plus sensible. Et on verra si, évidemment, il va peut-être pas jouer tous les matchs, mais si sa musculature va pouvoir tenir le coup. C'est ce qui avait rendu les choses très difficiles, en tout cas à ses débuts à Rennes. Et on croise les doigts et on espère que ça aille pour un mieux. Mais c'est un... En tout cas, son trajectoire est vraiment la trajectoire que je trouve très intéressante pour beaucoup de jeunes joueurs belges, c'est-à-dire de commencer par jouer dans des ne pas aller directement au sommet quand on n'est pas mûr, quand on n'est pas prêt, de passer par un stade intermédiaire. Est-ce que Rennes était le meilleur choix? On était nombreux à en avoir douté et finalement on s'est rendu compte que clairement il tâtonnait un peu les meilleures équipes, il titillait les meilleures équipes en Ligue 1. Donc ça s'est avéré être un excellent choix. Et d'ailleurs il a mis du temps à s'adapter et maintenant voilà, ça lui a permis d'être sous le feu des projecteurs des meilleurs acteurs. Et là on peut dire qu'après le stade intermédiaire, il est passé au stade on ne peut plus supérieur.
Alex, un mot sur Jérémy Doku?
Je serais pas aussi enthousiaste que Steve parce que voilà. Anderlecht, il n'a pas joué beaucoup de matchs, toute proportion gardée, moins de 40. On parle de titulaire et d'entrée en jeu. Rennes, il n'a pas beaucoup ou énormément de matchs non plus. Et là, il fait le pas vers Manchester City. Pour moi, c'est vraiment le quitte ou double. Certes, c'est un beau transfert, c'est le cinquième ou le quatrième belge le plus cher de l'histoire. Mais va-t-il réussir? Va-t-il jouer à Manchester City, même en tant que remplaçant ou super sub de monter et de pouvoir être décisif, ou bien va-t-il pourrir sur le banc pendant un an et demi, puis être prêté à Brentford ou que sais-je, et après
il est jeune
et après
hein.
C'est peut-être fini, c'est ça le risque. Je ne serais pas si enthousiaste que ça.
Je suis d'accord avec toi, Alex, mais il est jeune.
Tout à fait d'accord, mais quand tu as un Kevin De Bruyne, il avait plus de bouteilles pour ainsi dire quand il a fait le pas vers Manchester City. Il était passé par Chelsea, Brême, Wolfsburg. Il avait pris une expérience et des galons que Doku n'a pas du tout. C'est pas la même position non plus. Mais je reste quand même sceptique par rapport à l'enthousiasme.
Je suis d'accord avec toi. Il a beaucoup de choses à prouver. Là où je suis peut-être un peu plus optimiste que toi, c'est que je pense en effet que cette année va être une année charnière. Et si jamais il ne se profile pas comme un super sub de luxe, c'est-à-dire quelqu'un qui, malgré tous les matchs que va jouer Manchester City, ne rentre jamais, en tout cas n'a pas une position où il devient au moins un remplaçant qui tâte du terrain au moins quasi toutes les semaines. Je le vois faire un prêt à la Lukaku, à Everton, à quelque chose, à un club qui soit un club juste un cran en dessous, qui va lui permettre peut-être d'atteindre. Alors, ce qui fait me dire, c'est qu'il n'a pas 26 ans. Il a 21 ans. Donc, c'est vrai qu'il va très vite. Il a fait qu'une saison, Anderlecht. Hein. Il n'a fait qu'une saison. Il en a fait trois à Rennes, mais qu'une saison, et avec beaucoup de blessures, mais qu'une saison, Anderlecht. Et là où je pense qu'il y a des chances, c'est que je pense que ce n'est pas un quitte ou double, parce que si ça ne fonctionne pas, il pourra y avoir à 23 ans, 22 ans, une seconde chance dans un club du sub-top qui lui permettra peut-être de voir si il peut tâter ses sommets. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, c'est un pari.
Le bon côté de ce transfert aussi qu'on peut regarder, c'est que Manchester City n'a pas de joueurs de ce type-là, de ce profil-là. Les joueurs qui sont sur les ailes, c'est Bernardo Silva et Jack Grealish, qui sont deux mecs qui rentrent plus vers l'intérieur et qui prennent pas leur ligne. Là, c'est typiquement le style Doku. C'est, comme on dit dans le jargon, bouffer sa ligne, quoi.
Non, c'est vrai. Il a. Maintenant, il va falloir voir s'il s'habitue au rythme de la Première Ligue, hein, qui est totalement différent de ce qu'il a connu. Hein. Et donc ça va être.
Mais son avantage, c'est qu'il a d'un côté plus d'espace. Ouais. La France est un championnat très compact, on le sait. Toi, tu le sais certainement, Blaise, étant grand fan de l'OM, il y a plus d'espace, mais il faudra un avoir la bonne course, deux savoir en profiter. Et il suffit qu'il rentre une fois au jeu, qu'il délivre un caviar de son flanc après avoir pris de vitesse le défenseur, que là, il gagne ses galons et il va devenir ce super sub. Mais il faut être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très compliqué. Et j'ai envie de faire le parallèle avec Mitoma, qu'il a fait à Brighton assez rapidement. Et on a vu la suite. Mais il faudra être là et il faudra le faire. Parce que c'est plus ou moins le même âge, plus ou moins la même expérience.
Steve, donc Jérémy Doku, transféré 65 millions il y a quelques jours en direction de Manchester City. C'est votre diable de la semaine, votre belge de la semaine. Alex ?
Eh ben, j'ai failli prendre un presque belge, mais j'opte pour son entraîneur qui, lui, est belge. Et c'est Will Steele. Parce que tout le monde pensait l'année passée, et donc on revient en Ligue 1, mais tout le monde pensait l'année passée que notre ami Will... c'était un miracle, c'était par hasard qu'ils avaient enchaîné autant de matchs sans défaite. Ben, en fait, non. Cette année, ils sont 3e, ils ont 6 sur 9. Ils viennent d'aller gagner à Montpellier, 3-1. Deux buts de Thomas, d'ailleurs, c'est pour ça que j'hésitais. Et franchement, des superbes buts.
Ah oui, ils sont.
des superbes buts.
Un coup franc, déjà un coup franc incroyable.
Pas parce que c'est un ami, mais franchement, ça mérite vraiment d'être vu. Et chapeau bas, parce que tu changes de club, tu changes de championnat. Et tu te démarques comme ça après trois matchs, enfin après deux matchs et demi pour lui, c'est gros chapeau. Mais donc c'est Will Steele dont je voulais parler, qui prouve en fait, il a perdu ses meilleurs joueurs, et Reims se retrouve de nouveau 3e avec 6 points, ils continuent encore 15 matchs comme ça, ils sont sauvés, et ouais. Leur saison sera réussie quoi qu'il arrive, et qui sait, peuvent-ils peut-être aller accrocher une... On ne va pas parler de Ligue des Champions, mais une 5-6e place.
Déjà l'an dernier, ils sont aux portes de la Coupe d'Europe. Donc, faire mieux que l'an dernier, ce sera déjà un exploit pour le Stade de Reims, retrouver la Coupe d'Europe après pas mal de temps.
Un très gros exploit, mais voilà. Chapeau bas, le Belge de la semaine, Will Steele.
Et ça marche mieux que pour lui que pour son frère. Hein.
Oui, ben oui. Je pense que pour Edouard, c'est un cadeau très empoisonné d'avoir Courtrai. Après, il avait signé à Courtrai. Quand on parlait encore d'un holding américain qui allait reprendre le club, il y avait un chèque de 17 millions qui devait être payé, qui n'a pas été payé. Il y a Mathias Leterme qui est parti, qui est le fils d'Yves et qui était le CEO et qui gérait tout à Courtrai. Leur directeur sportif est parti. Et Will Steele se retrouve avec une équipe se retrouve avec une équipe pas au complet. Et on lui demande de performer avec des joueurs qui veulent partir comme Kadri et des joueurs qui sont d'un côté trop vieux, d'autres pas assez expérimentés. Donc c'est pour Edouard, c'est vraiment pas un cadeau. Après ce qui s'est passé à Eupen l'année passée, c'est foncièrement dommage.
Pour revenir à Will Steele aussi, il est important de préciser qu'il est complètement libéré de cette folie de l'année dernière où il se prenait une amende à chaque match parce qu'il avait pas ses diplômes. Il a passé ses diplômes cet été. Et donc pour lui aussi, ça doit être un peu plus soulageant faire payer des amendes à son club tout en étant sur le terrain.
Bah, disons que d'un point de vue opérationnel, ça ne lui traverse pas l'esprit. D'un point de vue structurel, c'est effectivement plus avantageux, c'est mieux aussi.
Ça n'a pas l'air d'avoir été un gros obstacle l'année passée où il a fait combien de matchs
je pense qu'il s'en fout complètement.
Je ne sais plus.
Mais il a fait le record du club en tout cas.
C'était autour des 14-15, oui, même près d'un record en Ligue 1. Hein. C'est même pas un record de Reims, c'est un record tout court. Ils sont un match du PSG, je pense.
Oui, c'est ça, c'est un match du PSG qui est donc c'était éviter la défaite pour 19 matchs. 19 matchs consécutifs sans défaite l'année dernière, un record de la part de Reims, donc Will Steele, même pas 30 ans, et déjà un entraîneur plus que respecté en France, de l'autre côté de la frontière, le Stade de Reims, donc vraiment qui pourrait être la surprise. Et un autre ancien pensionnaire de notre championnat, Ito, qui fait déjà l'année dernière et ce début de saison, qui est remarquable. D'ailleurs, Teddy Thomas, après le match, était en zone mixte pour s'exprimer et il a estimé que le championnat de Belgique était un championnat très sous-coté et que les gens ne le regardait pas, donc on le remercie Teddy Thomas de nous mettre un peu la lumière sur la Jupiler Pro League. Ça nous fait du bien de sortir des joueurs comme ça et qu'ils prennent la parole en dehors de nos frontières. La transition est toute trouvée. On va maintenant parler du championnat belge. Avant de parler du championnat belge, on va parler des pensionnaires du championnat belge, on va parler de ces clubs belges qui ont joué la Coupe d'Europe ce week-end, calendrier de la Pro League aménagé ce week-end pour permettre aux clubs en lice pour une qualification de se préparer au mieux. C'est une bonne initiative, pas mal d'importance de bien réussir la saison pour le coefficient national et les places en Coupe d'Europe au cours des prochaines saisons. c'était les matchs aller. On jouait en qualification de la Ligue des Champions entre l'Antwerp et l'AEK Athènes. L'Antwerp qui s'en sort bien, 1-0, ultra dominé par l'AEK Athènes, pardon, en termes de possession, en termes de nombre de tirs. Un retour qui s'annonce très compliqué et tendu à Athènes avec un seul but d'avance. On connaît le stade de l'AEK, c'est pas toujours joli.
Attention, c'est un nouveau stade.
Ah, c'est un nouveau, apparemment.
C'est un tout nouveau stade qui a été construit il y a 3 ans. D'accord. Et la finale de la Conference League aura d'ailleurs lieu dans ce stade en mai ou début juin 2020. Ce sera en mai plutôt 2024.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On y croit pour l'Antwerp ou...
Quand tu gagnes 1-0 ton match aller, si tu n'y crois pas, autant arrêter le foot. Hein, mais...
Disons que cette victoire a un peu moins de valeur que ce qu'elle aurait eu il y a 2 ans, évidemment. Hein, avec 1-0, pas de but marqué à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire que il y a 2 ans, si tu marquais un goal à l'extérieur, c'est bingo, parce que c'est-à-dire que l'autre équipe devait en marquer 3. Ici, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Ils marquaient un goal dans leur stade, les cartes seront rabattues. De ce que j'ai vu, des parties de match que j'ai vu, en effet, l'Antwerp a été ultra dominé. Ça ne veut pas du tout dire que l'AEK est vraiment meilleur. Je pense que pour l'Antwerp, c'est pas évident de se retrouver dans une telle compétition. Ils n'ont pas l'habitude. Clairement, et la plupart de ces joueurs, à part peut-être Alderweireld, n'ont pas non plus l'habitude de se retrouver à ce stade de la compétition. Mais ils ont fait le job, ils ont fait le gros dos à 10 contre 11. Puisqu'ils se sont retrouvés
40 minutes sans
pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Donc l'élément principal dans comme on le dit souvent, ça va être de tenir le score en première partie dans ce stade qui va être bouillant, dans ce stade grec, essayer de tenir et de pas prendre un goal et puis croire en ses chances, parce que l'Antwerp est quand même drôlement qualitatif a drôlement de qualité individuelle et collective. Je trouve qu'ils le montrent assez fort en ce début de championnat, dans la même lignée que de la manière dont ils ont terminé le championnat en champion l'année passée. Et ils doivent croire en leur chance, parce que c'est une occasion unique. Et toute la Belgique doit être évidemment derrière eux, parce que on a tous un intérêt à avoir un club en Ligue des Champions. L'AEK Athènes est peut-être très fort, est peut-être fort, mais il me semble pas du tout un obstacle insurmontable pour cet Antwerp-là.
Pas supérieur, non. Ou aussi supérieur que ça.
Certainement pas. La grande difficulté, je pense, ça va être maintenir la pression dans ce cadre de la compétition, dans un tel stade où on sait que ça peut être relativement impressionnant, surtout pour des joueurs qui ne sont pas tous expérimentés.
Oui, mais je ne suis pas d'accord. Si on voit d'un point de vue fair play, effectivement, ce serait bien que l'Antwerp soit en Ligue des Champions. C'est une belle histoire pour le club, accueillir Real Madrid, Barcelone, que sais-je. C'est magnifique, c'est super cool. Par contre, pour le football belge, je suis désolé, mais ils ont gagné le match aller. Perdent 2-0 le match retour, ils se retrouvent en Europa League. Proportionnellement, ils prendront plus de points pour la Belgique en Europa League, en théorie, qu'en Ligue des Champions.
Et c'est pas mieux, Alex, d'aller en Champions et de finir 3e, d'essayer de faire ça ?
Essayer de faire ça, oui, mais tu ne termineras pas potentiellement avec 8-9 points. Donc, sauf Bruges sur un miracle l'année passée, et sauf Bruges il y a quelques années sur miracle aussi, qui ont passé les barrages. Les clubs belges, en général, ils ne dépassent pas.
Non, mais il ne faut pas tabler là-dessus, parce qu'évidemment, c'est un repêchage, la Ligue des Champions. C'est la vitrine. C'est la vitrine.
Oui,
on espère tous que des clubs... malheureusement, les clubs n'ont pas performé, donc on ne peut attendre que de l'Union de jouer en Europa League, parce que les autres joueront au mieux en Conference League. Mais on ne peut qu'espérer tout de même qu'ils puissent faire un parcours en Ligue des Champions. Et il a été démontré l'année passée que qu'en Belgique, avec la qualité... La qualité a certainement augmenté légèrement de notre championnat. On peut espérer pas gagner la Ligue des Champions, mais en tout cas essayer de pas être ridicule et gagner des points dans les poules.
L'Union fait quart de finale d'Europa League l'année dernière. La Conference League est une compétition qui est taillée pour les clubs de football belge.
Certainement.
Ou l'Europa.
Disons qu'elle est taillée pour aller potentiellement en quart ou en demi-finale, si pas en finale.
Mais sachant que tu peux passer, tu sais, à différents stades d'une coupe à l'autre en redescendant, il faut viser le sommet pour redescendre petit à petit.
Justement, on parlait.
Pour les points. Si on veut pérenniser la Belgique suite aux résultats de l'année passée, parce que l'année passée, en fait, le classement se compte sur 5 ans. Donc l'année passée, tu as une courbe énorme qui monte, tu as vraiment une hyperbole, ça ne peut pas se tasser par après, parce que sinon, une fois que ça disparaît, tes clubs belges peuvent perdre en une fois 3-4 places au classement UEFA, et là, tu te retrouverais sans qualifier direct Ligue des Champions, avec une équipe de moins, par exemple. Donc il faut, pour pérenniser, il faut des résultats, comme l'année passée, même si c'était inouï, il faut faire ça pendant quelques années d'affilée, au moins, pour graviter les places et pour se pérenniser, comme l'a fait le Portugal et comme est en train de faire la Hollande, en fait.
Justement, l'année passée, l'Union fait quart de finale, comme on l'a dit, défaite contre le Bayer Leverkusen au bout des deux manches. Là, ils affrontent Lugano, club suisse. Victoire 2-0, bonne position pour la qualification. Ils devront être sérieux au match retour. Ça, c'est une formalité.
En théorie. Mais non, en théorie, oui. C'est une faute professionnelle si tu mènes 2-0 et que tu ne passes pas. Après, ils l'ont eu contre les Rangers l'année passée, mais j'ose quand même espérer que Lugano à domicile et les Rangers à domicile, c'est tout à fait autre chose.
Bien sûr.
Après, moi, je ne vois pas ça comme une formalité. Hein. Tout qui a vu le match contre Lugano voit que clairement l'Union semble être, même s'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation sur l'Union, hein. Il y a beaucoup de points d'interrogation parce que une équipe qui perd 8 titulaires, même si on a le sentiment que bon an mal an ils peuvent tenir encore la route, on ne sait pas très bien comment elle va tenir. On l'a vu faire des hauts. Des très hauts, en bon, battant le Standard, ce qui ne semble pas être la chose la plus difficile en ce début de championnat, mais en battant Anderlecht et puis se prendre
et puis
faire une très très belle prestation contre HL et puis se prendre une claque monumentale contre Malines. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'Union, et tout qui a vu le match d'Europa League se dit que ils mettent 1-0 et puis il y a une égalisation qui est annulée. Certes à juste titre, mais qu'est-ce qu'il aurait été du match, et Lugano a eu des possibilités. Et l'Union arrive à capitaliser parfaitement entre la 60e et la 70e en marquant le deuxième goal. Mais donc l'effet de match pour moi était assez favorable à l'Union, qui me semble supérieure. Mais je peux pas exclure que Lugano rende la tâche à l'Union un peu plus difficile lors de la deuxième manche, notamment s'il marque en première mi-temps.
Après, l'Union jouera son petit jeu favori parce que Lugano doit attaquer, donc en contre.
Ouais, on connaît
Loïc Lapoussin, on connaît les longues balles d'Anthony Maurice. Sur Loïc Lapoussin, sur d'autres joueurs.
Non, tu as raison.
Ils ont une grosse carte à jouer. Donc moi, je ne m'inquiéterai pas du tout. Je m'inquiéterai plus pour Genk et pour Bruges et pour l'Antwerp que pour l'Union et Gand.
Non, c'est sûr. Et puis gagner 2-0. Donc ils doivent être sérieux. Je pense que c'est ça le mot. Être sérieux, essayer de pas encaisser, tenir le match et voilà, et essayer d'en mettre un, et normalement ce sera bon.
On va aussi parler de Bruges et Genk. 1-2 pour Bruges face à Osasuna. Une belle opération. Pas une marge énorme sur le match retour. Ils sont rendus plus tranquilles en l'emportant à l'extérieur. On a la sensation qu'ils n'auront plus qu'à terminer le travail à domicile et qu'ils semblent très bien partis. Pourtant, Osasuna, il faut y faire attention. Les clubs de Liga, ils sont pas toujours faciles à manœuvrer.
Justement. C'était la première victoire de l'histoire de Bruges sur terrain espagnol, donc je pense que tout est dit. Osasuna aujourd'hui, c'est une équipe très dure à manier. Ils ont eu énormément de mal la première demi-heure, Bruges, faut pas l'oublier non plus. Si c'est 2-0 après une demi-heure, on n'a rien à dire. Mais Bruges est resté très fort, très solide, très concentré pour aller marquer au bon moment par Skovolsen. Et après, la réaction suite à l'égalisation d'Osasuna, directement, on se remobilise. On continue notre jeu et on marque comme ça. Et ça, c'est assez frappant pour Bruges cette année parce qu'ils ont connu ce type de contre-coup face au RVDM qui égalise. Bruges réagit immédiatement. À Eupen, il y a eu une action d'Eupen qui n'a pas terminé en but, mais Bruges a réagi immédiatement après pour mettre le deuxième. Donc il y a ce que Della est en train de faire à Bruges, chapeau bas en quelques semaines, comment il réussit à mobiliser ses troupes. Et ça, c'est pour moi la plus grande perte du Standard, c'est Ronny Della. Mais tout ça pour revenir sur Osasuna, c'est pas fini. Je pense que vraiment Bruges aura énormément de mal, car Osasuna aime bien cette reconversion et aime bien jouer à l'extérieur. Donc je ne serai pas rassuré, je ne suis pas rassuré, mais ils ont tout à prouver, tout à faire pour atteindre une phase de poule. Et si Bruges est en phase de poule, il faut déjà un tirage catastrophique pour ne pas passer.
Oui, parce que là, donc on le rappelle, c'est pour la Conference League. Les poules pour la Conference League, c'est abordable pour Bruges et pour Genk et la Gantoise aussi, dont on parlera juste après. Steve, un avis sur Bruges?
Moi, je suis très impressionné par Bruges en ce début de saison. Comme beaucoup, les résultats suivent, mais la manière, la profondeur du noyau, les transferts qu'ils ont fait, le maintien du noyau, en complément du maintien du noyau, et je suis totalement d'accord avec Alex, le choix de l'entraîneur. Je pense que c'est lui qui a tenu le Standard l'année passée, soyons clairs. C'était pas la qualité du noyau, c'est lui qui a tenu le standard. Et là, avec le noyau qui est mis à sa disposition à Bruges, je trouve qu'et en très peu de temps, il a déjà fait un travail où on voit vraiment sa patte. Et aller gagner à l'extérieur en Espagne, même si on ne joue pas l'Atlético Madrid, le Real Madrid, on est d'accord,
ou Barcelone. C'est le cinquième de Liga. Quoi.
C'est une belle performance. Et ils devront, ça va pas du tout être facile le match retour. Parce que ils vont jouer crânement leur chance et qualitativement, Osasuna a parfaitement la possibilité de renverser même un excellent Bruges. Mais on peut compter, à mon avis, sur l'entraîneur pour mettre les points sur les i. Et j'espère vraiment, vraiment qu'ils vont passer. Parce qu'ils auront, à mon sens, et je vais aller finalement dans le même sens que vous, ils auront quasi fait le plus dur en se qualifiant pour les poules de la Conference League. Ça risque d'être plus dur que ce qui va leur arriver dans les poules. Donc, chapeau d'avoir été gagné en Espagne. Et on attend vraiment d'eux qu'ils se subliment pour confirmer ce résultat à domicile, ce qui vraiment est loin d'être acquis.
Le départ de Clinton Mata, on en parle ou c'est...
Je pense que Buchanan remplace très bien. Il est très focus. Et il y a le jeune Sabe derrière qui a déjà montré de très, très belles choses. Donc... Personnellement, je m'attendais à ce que Bruges aille encore chercher un arrière-droit. Il a été question de Thomas Meunier pendant quelques semaines. Mais force est de constater que Buchanan est focus. Il a envie, en tous les cas, pour jusqu'au prochain mercato. Et derrière, le jeune Sab, il a déjà remporté des galons à Club Next. Et ses entrées à Westerlo, il était titulaire. Et ainsi que face au Rudem, quand il est monté, il a donné un assist, je pense, aussi, ou deux. Ou un pré-assist. Donc, il a... Bruges a l'air armé de ce côté-là aussi. Je pense qu'il manque un défenseur central.
Buchanan, il est impressionnant, je trouve. Hein, parce qu'il
oui,
a
mais repens, c'est un ailier droit de base. Donc.
Oui, oui, mais comme Meunier, et confirme-moi, mais Mata, c'était aussi un peu ça au départ.
Mata, non. Mata était toujours plus défensif.
Mais qu'est-ce qui court, ce Buchanan, et qu'est-ce qu'il arpente? Et techniquement, vraiment, quand il veut, hein. Et on n'a pas toujours le sentiment qu'il veut tous les matchs, mais quand il veut, il est vraiment excellent. Hein.
Ronny Della fait en sorte qu'il veuille tout le temps.
Bah, ça, c'est vraiment sa force. Hein. Mmh. Et en ça, il a un vrai ADN Bruges aussi. Hein.
Tout à fait.
Hein, Sweat and Glory, il l'incarne parfaitement, je trouve. Et...
Ça restait un coup de poker, parce que Bruges, il y avait après Clément, après Oefkens, Parker, Schroeder et Eric Demille. Il faut le faire pour aller réanimer ce club. Hein. Tout le monde parle de Bruges, mais
attention,
les deux dernières années,
le noyau est là.
Le noyau est là, mais l'année passée, tu as 30 points dans la vue.
Non, mais t'as eu un sentiment, on en a déjà parlé ici, de longs fins de parcours avec une difficile transition vers une nouvelle ère. Et je peux comprendre, hein, quand on sort d'avoir été le meilleur club belge du 21e siècle, avec une ère qui a duré pendant quelques années. Avec ils ont explosé de leur talent tout le football belge, c'est pas évident. Et ils ont eu un peu de mal avec la transition, mais ils ont gardé, en tout cas, je trouve, un noyau qualitatif. Il leur manquait un parfait chef d'orchestre. Mmh. Et bon, c'est évidemment trop tôt, hein. Même si on aime se perdre en supputation, il est encore trop tôt pour le juger. Mais les débuts, on se dit, c'était lui, en fait.
Dans les deux autres matchs des clubs belges, la Gantoise et Genk qui s'imposent donc 2-0 pour la Gantoise face à la Poel Nicosie, Genk 2-1 face à Adana Demirspor. Du côté de la Gantoise, il marque dans les tout derniers instants, cela offre un peu d'oxygène avant le retour qui devrait être sous pression. À Genk, on est sur le fil depuis le début de la saison, on pourrait tout perdre après les désillusions européennes des éliminations en C1 face au Servette de Genève et en C3 face à l'Olympiakos. Vous avez quelque chose à ajouter sur ces matchs ?
Que Genk a tout intérêt à passer, parce que sinon ça va... hypothéquer une belle partie de la saison, je crains, et leur entraîneur Wouter Franken pourrait être sur la sellette, je pense, car c'est un très mauvais début de saison.
Ouais. Très mauvais début de saison.
Genk, c'est très décevant. Hein. Quand on parle de passage en cascade d'une coupe à l'autre, ils en sont, ils en sont l'illustration.
Ils font leur cinquième match, là.
Et c'est vraiment dommage. Je sais pas ce qui leur arrive parce qu'ils ont un noyau assez proche de l'année passée. Il y a quelque chose qui n'a, ils n'ont pas enclenché vraiment la vitesse de départ et c'est dommage. Contrairement à la Gantoise qui lui semble être en bonne possession de ses moyens. Et j'étais déçu qu'ils ne tuent pas le match un peu plus tôt d'ailleurs et qu'on doive attendre le retour dans leur éliminatoire de leur côté.
Cette semaine, donc, tous les matchs retour, mercredi et jeudi. Donc, on rappelle, Antwerp AEK Athènes, Union Saint-Gilloise Lugano, Osasuna Club Bruges, La Gantoise Apoel Nicosie et Genk Adana Demirspor. Tous des clubs qui ont joué, qui n'ont pas joué ce week-end, pardon. Je me confonds en erreur, qui n'ont pas joué ce week-end. Mais on a quand même joué en Jupiler Pro League ce week-end. Anderlecht s'impose 2-1 face à Charleroi et conserve la tête du championnat, une équipe complètement changée par rapport à l'année dernière. C'est le cas de le dire, non?
Ah oui, ça.
Métamorphosé.
Ça ne va pas faire pire qu'être 11e, je pense. Là, sinon, c'est les play-downs.
C'est le pire score depuis l'après-guerre. Hein. Le pire classement depuis l'après-guerre, apparemment.
Même juste avant la guerre aussi. Mais... non, mais c'est vrai.
Ouais.
Tu joues cette année la 11e place. Tu es très proche des play-downs et c'est très dangereux. Mm-hmm. Après, ça fera plaisir à certains, mais. Ici, ils se retrouvent en tête et c'est un début de championnat assez aisé. Mais ils sont là. Et généralement, quand tu es comme ça, que tu commences de la sorte, tu prends la confiance, tout se passe bien, et tu peux continuer sur cette lancée pour peut-être accrocher les play-offs 1, mais peut-être accrocher le top 3.
Un beau mercato, en plus, d'Anderlecht cet été, sans trop de sous. Enfin, si la situation financière est toujours la même, il n'y a pas trop de sous du côté de Constant Vandenstock. Aller chercher Philips, c'est des bonnes pioches quand même.
Ouais, mais leur transfert phare, c'est d'avoir vendu le gardien hollandais.
Verbruggen, 20 millions à Brighton.
Et donc ça finance tout leur mercato. Oui,
mais attention, Doku, il chope encore 8 millions.
Hein. Ouais, ah ouais.
Pas directement, mais.
Mais là ils ont vu.
Dans ton budget,
tu as tout à fait raison. Le pourcentage de la revente est un bon pari, mais ils chopent 20 millions pour le gardien hollandais Verbrugge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent financer quasiment tout leur mercato, eux qui ont des problèmes de fonds. C'était vraiment fabuleux. Il faut se placer dans l'idée que ce gardien n'a été titulaire que la dernière partie de la saison l'année passée. Où ils se sont arrêtés de jouer au mois d'avril, hein, parce qu'il n'y a pas eu de play-off. Ouais. Donc ce gardien, j'ai pas fait les statistiques, il n'a pas joué 20 matchs. Pour Anderlecht. Mais il faut avouer, et tous ceux qui l'ont vu jouer la saison passée ont été très impressionnés par ce gardien, parce qu'en plus, vu la situation d'Anderlecht, on peut dire qu'il a eu du travail. Donc on a pu voir l'étendue de son talent, et il a été vraiment, vraiment très bon.
Mais il faut savoir, dans les cercles de scouting, etc., c'était un des meilleurs gardiens au monde pour les prochaines années. Il était quand même troisième gardien avec les Pays-Bas aussi. Et donc, Burnley, qui était avec Company en début de saison dernière, voulait déjà mettre 6 millions. Anderlecht était prêt à accepter, sauf que Burnley a dit « Vincent, vous êtes bien gentil, mais on ne va pas dépenser 6 millions pour un gardien. » Et après, Brighton, ils le prennent pour 20. Mais Brighton, qui a aussi énormément d'argent, ils ont fait des achats, enfin, ils ont fait des ventes à Chelsea pour presque 150 millions. Donc, ils peuvent se permettre une folie. Donc,
17 matchs la saison dernière.
Bah, tout bénéf pour Anderlecht.
Voilà. Oui, non, et donc ça leur a permis de faire un mercato. Et il faut reconnaître à ce directeur sportif, bon, qui, on l'a dit dans les journaux, hein, il a un contrat à durée très déterminé et il va être jugé au résultat. Donc, pour lui, c'était ce mercato ou jamais. Et on sait que depuis près de 10 ans, les mercatos d'Anderlecht sont une catastrophe quasiment. Hein. Qui se rappelle de tous les attaquants qui sont passés, qui ont joué au mieux une saison, au pire une demi-saison à Anderlecht? Faut avouer que ces derniers temps, les seuls qui sortaient du lot, c'était ceux qui sortent du centre de formation et qui sont vendus trop tôt, bien malheureusement, pour Anderlecht à l'étranger. Mais là, ils ont sorti le chéquier en partie. Mais ils ont été prendre ce qui semblerait être de la qualité. Alors moi, j'ai vu j'étais au stade lors de leur premier match de la saison à l'Union Anderlecht. Clairement, on s'est dit qu'Anderlecht, cet Anderlecht-là ne menait pas large. Mais depuis lors, c'était il y a un mois, bah depuis lors, ils t'ont acheté. Depuis lors, on voit qu'il y a un semblant de fond de jeu, qu'il semblerait qu'il y ait de la qualité, que le Dolberg, il vaut certainement quelque chose, que Vertonghen étant tout de même en taille patron, qu'ils ont le petit jeune Théo Léoni qui a l'air de bien sortir du lot. Il y a quand même, c'est difficile de nouveau de pouvoir présager de ce qui va se passer, mais entre ce que j'ai vu il y a un mois et maintenant, on voit quand même des éléments qui sont susceptibles de se dire ils peuvent faire, il y a quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, il y a quelques éclairs qui peuvent réagir, qui peuvent de cette équipe d'Anderlecht.
Justement sur le terrain, donc 2-1, merveilleux but de Théo Léoni dans la surface, une frappe enroulée qui vient nettoyer la lucarne comme on dit.
Grosse faute défensive de Charleroi, hein, qui donne le ballon. Donc
grosse faute défensive.
Ça peut jamais arriver.
mais oui, un Anderlecht qui a un beau visage avec la recrue aussi Thomas Delaney qui est rentré dans les dernières minutes du match. Aussi une recrue XXL. Anderlecht ne veut pas laisser partir Amouzou à l'Olympiakos. Anderlecht veut conserver le joueur Amouzou. Dans les autres matchs de la journée, Eupen qui continue son début de saison de rêve avec sa victoire 3-1 face à OHL. Et le Standard qui est accroché par Courtrai, ou le Standard qui accroche Courtrai, je sais pas ce qu'on peut dire, Steve, c'est compliqué. Je sais que ça vous fait mal, vous êtes rouge comme le maillot.
Mais c'est parce que je reviens de vacances. D'ailleurs, je n'ai malheureusement pas, vu que j'étais à l'étranger, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de suivre ce match. J'ai vu le résumé après, de voir ce match, mais alors je suivais au but par but. Et quand j'ai vu ce but de Courtrai, je me suis dit c'est pas possible. Et puis, j'ai vu cette égalisation et je dois avouer qu'il y avait un soupir de soulagement parce que je suis très craintif pour cette équipe du Standard, mais je me suis dit qu'il y avait qu'une équipe qui était pire que le Standard à ce moment-là, c'était Courtrai. Et de voir qu'on était mené à Courtrai, je me suis dit oulala. Tout ça est quand même très inquiétant, mais blague à part, je suis très très inquiet. Je suis très inquiet parce que...
Le Standard 13e, on le rappelle. Donc premier qualifié pour les playdowns.
On le voit, le fond de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Est-ce que je peux en vouloir à Oufkens? Je ne sais même pas, parce que Oufkens n'a pas le matériel. On en parlait brièvement hors antenne, les quelques joueurs qui parvenaient à faire à distinguer le Standard du reste, à faire immerger le Standard l'année passée, sont tous partis, l'entraîneur en premier lieu, et Zicker, Nagel, Alzate, voilà, tout le monde est parti. Honnêtement, c'est très court, hein, au niveau qualitatif. C'est vraiment, vraiment court, hein. Donc, je veux bien que on nous dit qu'il faut du temps pour reconstruire, mais je ne voyais déjà pas bien l'année passée quel était le projet de ces nouveaux actionnaires. Je crois que tout le monde est parfaitement inquiet. Et quand on regarde les matchs, à part le match contre Courtrai, je pense que je les ai tous vus depuis le début de la saison, ça fait vraiment peine à voir. Et on se redit ça de saison en saison. Je sais pas bien où ils vont aller. Je ne sais pas si ce qu'on attend de leur prochain, du mercato pour sauver ce qui peut l'être. En tout cas, ça risque d'être très difficile et ça risque d'être très fort de gronder à ce que
ça. Ouais. Ah oui, ça c'est évident, Alex.
Ouais, tu as surtout la poisse que des équipes pressenties pour le bottom four, donc les quatre équipes les plus faibles de la compétition, Malines et Eupen, ils prennent des points et pas qu'un peu. Donc tu te retrouves là avec le Standard dans une position que tu n'as pas l'habitude, avec des jeunes joueurs, avec un coach qui n'a pas l'expérience. Ça peut très mal tourner ce genre d'histoire, malheureusement.
Oui, je suis relativement inquiet. Imagine
4 équipes liégeoises en D1B l'année prochaine.
Je ne peux pas imaginer de ma vie voir le Standard en D1B, mais enfin on pourra reprendre éventuellement
tous les derbies dit, contre Liège, contre Serein.
On pourra avoir, oui, à supposer qu'aucun ne monte en D1. Mais non, c'est là ils doivent absolument faire quelque chose. Et je pense que d'ailleurs que le calendrier n'est pas spécialement évident pour eux, donc il y a de quoi être très très inquiet du côté du Standard.
Mm-hmm. Ils jouent pas à Bruges bientôt?
Le Standard joue contre Bruges le 7 octobre, ça va, il y a un petit peu de temps. On a le RWDM, Eupen, Westerlo et OHL, ce sont les prochains matchs. Après 7 octobre et 21 octobre, c'est Bruges et Anderlecht, l'un à la suite de l'autre, ça fait toujours plaisir.
il va falloir prendre des points là. Hein.
Oufkens ne sera plus là, c'est dommage.
tu penses?
C'était un entraîneur du Standard qui prend 2 sur 15 ou 2 sur 18, tu te souviens ce qui se passe?
Je me souviens, mais je me souviens pas honnêtement d'un noyau. Je me souviens d'années de vaches maigres.
Notre ami Robert avait aussi commencé comme ça, et Boskamp aussi, je pense.
Tout à fait, Robert, ouais, c'est genre juste après la Coupe du Monde 2002. Mais je ne me souviens pas d'un noyau du Standard aussi faiblard. pour être honnête.
Ça, moi non plus.
Oui, je n'ai pas spécialement cru en Hufkens depuis le départ, mais je me suis toujours dit que tout dépendait principalement du noyau. Et là, là, il n'y a pas d'éclaircie à l'horizon.
Non, mais après, on sait comment ça fonctionne. En une fois, jeudi soir, tu auras 5 nouveaux joueurs.
Il va falloir, il faut motiver des gens à venir au standard, là, maintenant.
Oula, oui. Ça, c'est plus compliqué.
Faut leur présenter un projet, hein. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment pas évident.
Ils font partie du projet.
Il est 20h40 sur Radio Judaïka. Vous êtes bien dans On joue la prolongation. 20h40, il nous reste 20 minutes encore ensemble. Alex, je vais me tourner vers vous. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Je vais me tourner vers vous. Ça va être le moment de la Minute Sportimize. Et cette année, enfin déjà en cours de saison dernière, énormément de joueurs sont partis direction l'Arabie Saoudite. Parmi eux, Neymar, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, j'en passe. Et c'est assez lucratif pour eux, ces transferts.
Oui, tout à fait. Mais on va se focaliser sur Neymar et sur la com. Donc, Neymar a signé à Al Hilal pour 326 millions par saison. Ce qui est un salaire plus ou moins raisonnable. Ce qui est paradoxal, c'est que par victoire, il va toucher que 87 000 euros. Donc, c'est pas une somme qui devrait le perturber outre mesure. Par contre, dans le contrat, et ça, on avait déjà vu avec Lionel Messi et avec Cristiano Ronaldo également, pour mettre en avant l'Arabie Saoudite, le cheikh ou les propriétaires des clubs payent les joueurs pour des posts sur les réseaux sociaux. Et dans le cas de Neymar, il va toucher presque 550 000 dollars par post positif sur l'Arabie Saoudite sur ses réseaux sociaux. Donc c'est une forme de city marketing 2.0 digital. Et si on compare avec notre ami Lionel Messi, lui, il n'a pas signé en Arabie Saoudite, il est à Miami, mais il a un contrat avec l'Arabie Saoudite. Il est obligé d'aller en vacances là avec sa famille et 20 personnes au total. Et pour son voyage en Arabie Saoudite, ainsi que pour 10 posts sur le pays, sur ses réseaux sociaux à ce moment-là, il touche quand même 4 millions de dollars aussi. Donc on voit le contrat du joueur au lieu des primes sportives. On voit que ça se dirige aussi vers le marketing. Et donc c'est quand même des montants astronomiques. Je pense que Steve, il pourra le confirmer au standard avec 4 millions. Tu peux déjà faire de belles choses que tu ne fais pas pour l'instant.
On se rappelle, l'année dernière, Lionel Messi a été suspendu par son club, le Paris Saint-Germain, pour avoir fait un voyage express en Arabie Saoudite pour promouvoir le pays auprès de ses millions de followers. Donc on voit quand même que c'est maintenant des choses qui sont négociées, qui sont extrêmement importantes pour ces joueurs et ils ne sont pas les seuls. Hein. Vous avez cité Cristiano Ronaldo aussi, Neymar, qui sont des véritables porte-parole, porte-étendard de l'Arabie Saoudite. Le contrat de Neymar, quand même, c'est du béton. Hein. juste pour revenir rapidement dessus, sur le terrain, c'est pas forcément, même si c'est énorme, il touche beaucoup d'argent, mais les avantages qu'il a, c'est fou. Merci, Alex.
Merci, Blaise.
J'ai juste envie de retourner au football amateur, tout ça. Hein.
Ça donne envie de retourner.
Tu seras bientôt, fais attention.
Tu vois, je prépare déjà. Je prépare déjà une inspection.
Justement, il est 20h44 minutes. Il nous reste 16 minutes dans On joue la prolongation de ce lundi 28 août 2023. Et on va se focaliser sur le mercato qui termine dans 3 jours, jeudi soir, c'est jeudi soir à minuit, c'est ça?
Dans certaines compétitions en Europe, c'est jeudi soir à minuit, mais en Belgique, c'est 6 jours plus tard.
Jusqu'au 6 septembre.
Hein. Tout à fait.
Et en Arabie Saoudite, c'est encore un mois. C'est vrai.
Ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, puisque stratégiquement, la Belgique a laissé son mercato un peu plus longtemps ouvert, se disant que parfois, il se faisait piller des joueurs dans les 2-3 jours qui suivaient. La Russie était notamment spécialiste là-dedans. Ouais. Du coup, la Belgique s'est dit « Ah, pas avec nous, on va rester plus longtemps ouvert. » Mais ils n'avaient pas calculé l'Arabie Saoudite qui arrivait par derrière et qui peut venir piller.
On n'a pas bien vu les choses, parce qu'évidemment, la Russie est moins un terrain d'accueil pour les joueurs actuellement. Hein.
Oui, d'accord, mais tu as un Samuel Gigot que Blaise connaît très très bien, qui a quand même fait la Gantoise Spartak Moscou, si je ne m'abuse, pour se retrouver titulaire à Marseille. Donc... il y a la Russie décriée pour l'instant, mais d'un point de vue football, il y a quelques années, c'était quand même un très bon terrain de jeu et c'était très lucratif financièrement.
Depuis le conflit en Ukraine, tous ceux qui sont revenus en Europe alignent des prestations, enfin en Europe footballistique, alignent des prestations qui sont quand même très très intéressantes. Le mercato, on a parlé de l'Arabie Saoudite, on va continuer quand même un peu d'en parler. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir ça cet été, de voir cette saignée des clubs européens?
Ni chaud ni froid.
Bah,
il fait chaud en Arabie Saoudite, mais non, je pense que si on analyse le marché, c'est quelque chose de tout temps qui arrive à chaque fois. Ici, on parle de Neymar, on parle de Cristiano Ronaldo. Il ne faut pas oublier, en 2003, c'est Batistuta, c'est Effenberg, c'est Romario qui ont signé dans des clubs du Qatar à l'époque.
Franck Leboeuf aussi.
Oui, bah oui, évidemment.
J'avais oublié. Mais bon.
Donc, Franck Leboeuf a signé au Qatar. Voilà. Non, sans plaisanter. Le Qatar l'a fait. Le Japon l'a fait.
La Russie.
Un peu en moindre mesure. Disons qu'ici, ce sont des pays émergents qui prennent des stars pour, un, faire du city marketing, deux, se positionner sur la carte du foot, trois, avoir une certaine formation ou post-formation de jeunes pour créer une équipe nationale qui peut créer quelque chose et qui peut se qualifier pour plusieurs Coupes du Monde consécutives.
L'Arabie Saoudite a toujours été qualifiée pour toutes les Coupes du Monde. Hein.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais ils ne veulent pas être qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils veulent passer un tour, ce qu'ils étaient d'ailleurs à deux doigts de faire.
Ouais, à la dernière, ils battent l'Argentine, future championne du monde, quand même.
C'est un malentendu.
Oui,
c'est vraiment un malentendu. Mais non, je veux dire, tu as eu le Japon dans les années 90, tu as eu l'Amérique, tu as eu le Qatar, tu as tous ces pays. Même en moindre mesure, la Chine, c'était encore plus récent, même en moindre mesure, les pays de l'ancienne Union soviétique, le Kazakhstan, etc., ils ont aussi été chercher des joueurs pour beaucoup d'argent, mais ce n'était
pas... Des joueurs en fin de parcours vieillissants.
Voilà, mais ce n'était pas les stars qui sont partis dans un pays qui est décrié. Et c'est ça, l'opinion publique qui n'apprécie pas aujourd'hui. Mais après, ces joueurs, ils vont revenir en Europe. Peut-être pas, enfin, le Ronaldo, peut-être bien, Neymar, j'ai un doute, mais les autres joueurs qui sont plus jeunes, ils vont revenir en Europe, ils vont performer, ils vont jouer. Witzel est aussi parti pour soigner sa famille en Chine. Il est titulaire à l'Atlético Madrid, on est 6, 7, 8 ans après. Donc, personnellement, ça ne me choque pas parce que c'est de tout temps. Et j'ai envie je vais être bref, mais si on revient à la base même du football en 1870-80, c'était à chaque fois des clubs qui étaient issus d'une entreprise. On avait Arsenal, les Gunners, on avait Stoke, la poterie, on avait West Ham, les armuriers, etc. C'était des entreprises. Et le patron de l'entreprise allait dans l'entreprise de Leeds, qui était dans la sidérurgie ou autre chose. Il allait chercher leur meilleur joueur, qui n'était pas nécessairement le meilleur employé, mais ils allaient chercher ces joueurs pour beaucoup d'argent. Ils leur donnaient des salaires qui étaient 15 fois supérieurs à la normale pour travailler dans leur entreprise, juste parce que c'était un bon footballeur. Donc, c'est de tout temps dans le foot. Donc, personnellement, ça ne me choque pas. Et aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite qui sait, dans 10 ans, ce sera un autre pays émergent qui voudra faire pareil. L'Égypte.
Et pour avoir regardé... quelques matchs d'Al Nasser principalement. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, je trouve que ça joue mieux qu'aux États-Unis, par exemple.
Ou alors, moi, tu posais la question, qu'est-ce que vous en pensez, ça vous fait chaud ou froid? Moi, ça me fait froid terriblement. Personnellement, j'ai déjà exprimé ici, pour moi, c'est tout le football que je déteste. Ça me donne juste envie d'une chose, c'est de retourner au plus profond de la Jupiler Pro League. Et vraiment, parce que ben voilà, pour moi, on est dans des, on est dans ce qui se fait d'irréel, dans ce qui se fait d'indécent, dans ce qui se fait de personne. On me dit oui, mais il faut pas attendre l'Arabie Saoudite pour ça. Je suis bien d'accord. L'Arabie Saoudite est pour le moment la face immergée d'un système assez pourri qui fait que on traite le salaire, c'est du marketing, c'est du marketing, c'est même plus que ce que joue, on fait toucher des gens des millions voire des milliards pour jouer au foot. Je pense qu'on va beaucoup trop loin, et finalement il y a une question d'éthique, je pense, à avoir de la part des joueurs. Est-ce que tu veux aller dans un état comme l'Arabie Saoudite, où tu sais que tu sais parfaitement d'où vient l'argent, tu sais parfaitement comment sont traités les travailleurs sur place, tu sais parfaitement comment sont traitées la population qui dévie de la doxa environnante. Si tu décides que tu t'en fous et tu le fais pour l'argent, bah voilà, je suis pas particulièrement étonné qu'un Neymar y ait, qu'un Ronaldo y ait. Mais pour moi, c'est vraiment l'aspect du football qui ne me laisse pas ni chaud ni froid, qui me fait froid plutôt dans le dos. C'est le football tel que je ne l'aime pas du tout. Et non, j'ai pas envie de regarder du tout le championnat d'Arabie Saoudite qui est fake. Et je suis d'accord avec Alex, ils n'ont rien inventé. Le Qatar l'a fait. Et on le sait, hein, bah c'est politique, c'est pour se montrer, c'est pour montrer qu'on est, on fait des choses bien, qu'on est beau, qu'on se montre à la face du monde. Donc le Qatar l'a fait, dans une moindre mesure d'autres États l'ont fait. C'est jamais avec beaucoup de succès, mais là c'est pour moi comme le Qatar, c'est avec beaucoup d'argent sale. Mmh. Et j'aime pas ça. C'est pas du tout le foot que je rêve depuis que je suis gamin.
Mais, par contre, quand tu étais gamin ou... Peut-être pas, mais Blaise pourra peut-être le confirmer. Tu joues à FIFA. Et en fait, ce qui se passe, mais ça, c'est de nouveau ce que fait l'Arabie Saoudite. C'est un enfant qui joue à FIFA ou un ado qui joue à FIFA. Ouais. Il achète les meilleurs joueurs dans son club et il gagne tous ses matchs
tout
comme
à fait,
ça.
Tout à fait.
Mais ça se fait au niveau de l'Arabie Saoudite. Ça se fait. Il y a des équipes en Belgique qui font exactement pareil. Et il y a des équipes en football amateur qui font encore pire. Donc c'est de tout temps, de toute époque,
d'accord sur la philosophie, c'est... mais là on atteint des barèmes et tu sais mettre sa famille à l'abri, ça fait rire évidemment toutes les personnes qui vont dans le stade voir un peu de match de foot.
Mais ça, c'est
parce que nous il suffirait d'aller simplement gagner l'argent de ceux qui jouent simplement déjà dans un bon championnat pour se dire qu'on met notre famille à l'abri. Donc je pense qu'ils sont juste, on est juste dans des mondes parallèles irréels et vraiment, on se dit, est-ce qu'on a envie de voir Neymar aller jouer en Arabie Saoudite ? On dit juste mince, on le verra juste plus jouer, et c'est dommage, parce que c'est un super joueur.
Moi, je me dis pas mince.
Il nous reste 8 minutes, il est 20h52, on a encore deux sujets à traiter. Le premier, c'est Lukaku qui prend la direction de Rome. Bon choix pour Romelu d'évoluer à côté de Dybala sous Mourinho. Ça fait un peu penser à son association avec Lautaro Martinez à l'Inter Milan.
C'est news toute chaude, Blaise. Hein. Ça, c'est sorti il y a quelques minutes. Donc, effectivement, le Chelsea et Rome ont trouvé un accord pour 6 millions pour la saison 23-24. Donc, Big Rome, s'il trouve un accord personnel avec Rome, ce qu'il va faire, parce qu'il n'a plus d'autre alternative, il jouera à Rome. Et effectivement, je pense que d'un point de vue sportif, ça peut matcher. Pour moi, il y a quelques points d'interrogation. C'est Mourinho. Est-ce qu'il va le faire jouer comme il en a envie ou est-ce qu'il va faire jouer Romelu comme Romelu en a envie? Donc,
c'est pas forcément évident. Hein. Ils ont déjà travaillé ensemble et ça ne s'était pas passé pour le mieux à Manchester United entre les deux. Hein.
Oui, moi, honnêtement, je suis très triste de cette situation, comme beaucoup, parce que on a l'impression
que... Pour le coup, j'ai vraiment du mal à être triste parce que c'est lui qui l'a voulu, cette situation, et...
Ah non, pas triste pour lui, triste de la situation pour tout le monde, ouais, parce que voilà, je dois avouer que j'ai pas suivi de comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Comment on s'est retrouvé dans un truc où il est devenu persona non grata à l'Inter, à Chelsea.
À la Juve.
Je me doute qu'il doit avoir une part de responsabilité, mais tu pourras peut-être éclairer nos auditeurs là-dessus.
Ce qui se dit beaucoup, c'est que depuis mars, il était pour parler avec la Juve, et la Juve étant le rival au nid de l'Inter Milan, il a été détesté par les deux clans. Et vu la saison qu'il a fait l'année dernière, qui n'est pas forcément une saison parfaite, je peux comprendre les supporters de l'Inter qui se disent écoute, déjà, sois bon sur le terrain au lieu de négocier un transfert à la Juve.
Oui, ça se tient.
Après, oui. Je pense que c'est une excuse parce on sait très bien en Italie comment ça se passe. Inter, Juve, Milan, oui, Fiorentina. Il y a combien Roberto Baggio plutôt. Il les a tous faits.
Pirlo.
Il a été soi-disant détesté. C'est passé crème. Ouais. Je n'ai jamais vu à l'époque des supporters de la Juve qui allaient sur le terrain après un match pour dire il est hors de question que tel joueur ou tel joueur signe et joue dans notre club sinon on ne vient plus. On connaît l'influence des Curva en Italie, de la Juventus. Qui peut mettre pression d'une autre manière que verbalement sur le terrain, sur ses dirigeants, mais c'est quand même du jamais vu. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, ça en dit long et Romelu arrive à se faire adorer et ou détester. Oui.
Mais c'est bien qu'il ait quelque part, qu'il aille, sauf en Arabie Saoudite, hein, parce que c'était quand même la question aussi. À la fin du mercato, il restait plus que ça.
Bien sûr.
Et il aurait peut-être dû en fait.
Oui, bah.
Mais non, mais c'est hypocrite. On te propose un salaire 5 fois supérieur demain au Luxembourg, tu y vas aussi?
On va en parler personnellement. Je pense qu'au niveau, en tout cas, au niveau sportif, on est plus content de le retrouver dans le championnat italien, ou on aurait été content de le retrouver dans le championnat anglais que dans le championnat saoudien. Mais moi, je suis avant tout content qu'il trouve un port d'attache où on puisse continuer à le suivre, où il puisse continuer à se développer, où il puisse continuer à être le super footballeur qu'il est depuis des années avec des hauts et des bas, mais toujours directement bénéfique pour la Belgique.
Moi, c'est vraiment un transfert que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mercato qu'a fait la Roma cette année. J'aime bien leur équipe. Mmh. Donc à voir s'il peut être alimenté par Dybala, Aouar. Ça peut être très joli.
Je pense que c'est, en tout cas, on ne sait pas comment ça va aller, mais c'est potentiellement intéressant pour Lukaku et pour l'équipe. Hein.
On a appris aujourd'hui que notre Eden national se rapprochait de la retraite. Vous y croyez, vous?
On a appris ça aujourd'hui
a vu des rumeurs. Je vais citer la rumeur, c'est Foot Mercato, la célèbre page qui n'est pas forcément toujours au courant de toutes les actualités chaudes, mais en tout cas, eux ont sorti ça aujourd'hui.
Quelles sont les possibilités qui sont les siennes maintenant, Eden? Qu'est-ce qui lui reste?
Il y avait Westerlo à un moment.
Ouais. le RWDM qui voulait le ramener avec son frère.
Le Standard, peut-être.
Je pense qu'ils n'ont rien à perdre.
Non, je pense qu'on se rapproche de la retraite. Très triste fin de carrière quand même pour sûrement un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de Belgique.
Incompréhensible.
Le plus cher, en tout cas.
Le plus cher.
Pour moi, incompréhensible.
Incompréhensible.
Je
ne
comprends pas. Je comprends pas ce qui lui est arrivé.
Dernières saisons à Madrid, voilà quoi.
Ouais. Dans une trajectoire de carrière. Quelqu'un qui est passionné par le foot, tu dis ok, t'as plusieurs types de profils hein, comme ça. T'as ceux qui disent à un moment je m'arrête en haut, je m'arrête et je veux passer à autre chose. T'en as qui disent j'ai envie de continuer des années, mais qui ont une certaine humilité hein, de se dire je descends tout doucement les échelles, mais je joue de plus en plus pour mon plaisir. Mais lui on comprend pas. Il jouait pas. Donc il y avait pas de plaisir, il y avait pas de projet de futur. Il y a juste beaucoup de rumeurs et beaucoup d'attentes déçues.
On sait à quel point Eden Hazard est un homme de famille. Apparemment, sa famille se plaisait énormément à Madrid. Ça a aussi pu jouer dans sa fin de parcours professionnel. En tout cas, pour l'instant, en deux petites minutes, j'ai une question à vous poser. Quel est le transfert qui vous hype le plus cette année?
Toute compétition confondue.
Compétition confondue. Personnellement, moi je pense que c'est Kane au Bayern, ça me parle beaucoup, voilà.
Je comprends, moi c'était justement le deuxième Belge que j'hésitais à mettre dans les Belges de la semaine, parce qu'il a marqué, donc je vais peut-être faire un lien, c'est Openda à Leipzig, qui a marqué dans les deux premiers matchs.
Deuxième but d'affilée.
Et donc, ça m'excite quand même très fort ce transfert, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il vaut, Openda. Mm-hmm, mm-hmm. On en parle beaucoup en bien, mais on ne l'a pas encore bien testé. Et là, j'ai l'impression que c'est un test grandeur nature pour lui. Le fait qu'il ait marqué dans les deux premiers matchs, on se dit, mais comment va se passer sa saison? C'est un super club pour lui pour grandir. Ouais. Ça peut être super pour l'équipe nationale belge, pour lui, pour son développement. Et je me réjouis de voir ce qui va se passer avec lui. Et donc, c'est un transfert qui me réjouit assez fort pour lui.
Très intelligent, je trouve, cette décision de la part de Loïs Openda de quitter Lens pour rejoindre le RB Leipzig. Il est 20h58. Merci, Alex.
Merci à toi, Blaise.
Mais avec grand plaisir. Merci, Steve.
Merci à vous deux.
On se revoit la semaine prochaine. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas là, Alex. On vous retrouve donc lundi en 8.
Non, c'est la semaine d'après que je me suis
rendu. Ah, c'est la semaine d'après, pardon. J'ai encore du mal avec votre agenda, mais je m'y fais. Steve,
à bientôt.
On se revoit bientôt. On prend pas de rendez-vous net.
Non, j'aime laisser un. un peu de mystère, comme ça je vois un peu comment ça évolue. Hein,
voir à la, voir à si la je première reviens. Victoire du Standard.
Je reviens à la première victoire du Standard. Donc,
en mars 2024.
Joyeux Noël à tous.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté On joue la prolongation en ce 28 août 2023. Il est presque 21h, 20h59 sur Radio Judaïka. Le retour de l'information, c'est dès demain 7h dans la matinale avec Didier Cohn et Liz Ben-Kemoun. Une matinale où j'aurai la chance de vous reparler. Passez une excellente soirée sur les ondes de Radio Judaïka. On se voit demain pour le reste des programmes. Et on se voit la semaine prochaine pour le retour d'On joue la prolongation.
Et la voilà quatrième. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Mettre la tête dans le paquet. Et le prise de but. Goal. Goal. Vous l'avez dit. Oh, à l'instant, je n'ai vraiment pas peur de le dire, mais surtout, vous êtes un salaud.